Stello, chapitre 10, amélioration. Stello cessa d'appuyer sa tête sur le coussin de son canapé. Il se leva et étendit les bras vers le ciel, rougit subitement et s'écria avec indignation. « Et qui vous donnait le droit d'aller ainsi mendier pour lui ? Vous en avait-il prié ? N'avait-il pas souffert en silence jusqu'au moment où la folie secoua ses grelots dans sa pauvre tête ? S'il avait soutenu pendant toute sa jeunesse l'âpre dignité de son caractère, s'il avait pendant une vingtaine d'années songé, singé l'aisance et la fortune par orgueil et pour ne rien demander, vous lui aurez fait perdre en une heure toute la fierté de sa vie. C'est une mauvaise action, docteur, et je ne voudrais pas l'avoir faite pour tous les jours qui me restent encore à subir. Je la mets au rang des plus mauvaises. Oh, il y en a un grand nombre. Que n'atteignent pas les lois, comme celle de tromper les dernières volontés d'un mourant illustre et de vendre ou de brûler ses mémoires, quand son dernier regard les a caressés comme une partie de lui-même qui allait rester sur la terre après lui, quand son dernier souffle les a bénis et consacrés. Vous avez trahi ce jeune homme lorsque vous avez quêté pour lui l'aumône d'un roi insouciant. Pauvre enfant, lorsqu'il avait des lueurs de raison, lorsque ses yeux étaient fermés, selon votre expérience, il pouvait, se sentant mourir, se féliciter de la pudeur de sa pauvreté, s'enorgueillir de ce qui ne laissait à aucun homme le droit de dire, il s'est abaissé. Et pendant ce temps-là, vous allez prostituer ainsi la dignité de son âme. Ah, voilà en vérité une mauvaise action. Le docteur Noir sourit avec une parfaite tranquillité. Asseyez-vous, dit-il. Je vous trouve déjà mieux. Vous sortez un peu de la contemplation de votre maladie. Lâche habitude de bien des hommes, habitude qui double la puissance du mal. Et pourquoi ne voulez-vous pas que j'aie été attaqué une fois, moi-même, d'une maladie bien répandue, la manite protégée ? Mais revenons à ma sortie de Trianon. J'en fus tellement déconcerté que je ne remis plus les pieds chez l'archevêque et m'efforçai de ne plus penser au malade que j'avais trouvé dans son palais. Je parvins en quelques minutes à chasser cette idée par la grande habitude que j'ai de dompter ma sensibilité. « Meuse victoire !» dit Stello en grondant. « Oui, je me croyais débarrassé de ce fou depuis longtemps. Lorsqu'un beau soir, on me fit appeler pour monter dans un grenier où me conduisit une vieille portière sourde. « Que voulez-vous que je lui fasse ?» dis-je en entrant. « C'est un homme mort. » Elle ne me répondit pas. Elle me laissa seule avec le même homme que je reconnus difficilement. Chapitre 11. Un grabat. Il était à demi couché, le pauvre malade, sur un lit de sangle placé au milieu d'une chambre vide. Cette chambre était aussi toute noire, et il n'y avait pour l'éclairer qu'une chandelle placée dans un encrier en guise de flambeau et élevée sur une grande cheminée de pierre. Il était assis dans son lit de mort, sur son matelas mince et enfoncé, les jambes chargées d'une couverture de laine en lambeaux, la tête nue, les cheveux en désordre, le corps droit, la poitrine découverte et creusée par les convulsions douloureuses de l'agonie. Moi, je vins m'asseoir sur le lit de sangle parce qu'il n'y avait pas de chaise. J'appuyai mes pieds sur une petite malle de cuir noir sur laquelle je posai un verre et deux petites fioles d'une potion inutile pour le sauver, mais bonne à le faire moins souffrir. Sa figure était très noble et très belle. Il me regardait fixement et il avait au-dessus des joues, entre le nez et les yeux, cette contraction nerveuse que nulle conviction ne peut imiter, que nulle maladie ne donne qui, dit au médecin, « Va-t'en !» et qui est comme l'étendard que la mort plante sur sa conquête. Il serrait dans l'une de ses mains sa plume, sa dernière, sa pauvre plume, bien tachée d'encre, bien pelée et toute hérissée. Dans l'autre main, une croûte bien dure de son dernier morceau de pain. Ses deux jambes se choquaient et tremblaient de manière à faire claquer le lit mal assuré. J'écoutais avec attention le souffle embarrassé de la respiration du malade. J'entendis le râle avec son enrouement caverneux. Je reconnus la mort à ce bruit, comme un marin expérimenté reconnaît la tempête au petit sifflement du vent qui la précède. « Tu viendras donc toujours la même avec tous, » dis-je à la mort assez bas, pour que mes lèvres ne fissent aux oreilles du mourant qu'un bourdonnement incertain. Je te reconnais partout à ta voix creuse que tu prêtes aux jeunes et aux vieux. Oh, comme je te connais, toi et tes terreurs, qu'il en sont plus pour moi. Je sens la poussière que tes ailes secouent dans l'air. En approchant, j'en respire l'odeur fade, et j'en vois voler la cendre pâle, imperceptible aux yeux des autres hommes. Te voilà bien, l'inévitable, c'est bien toi. Tu viens sauver cet homme de la douleur, prends-le dans tes bras comme un enfant, et emporte-le. Sauve-le, je te le donne. Sauve-le de la dévorante douleur qui nous accompagne sans cesse sur la terre, jusqu'à ce que nous reposions en toi, bienfaisant ami. C'était elle, je ne me trompais pas. Car le malade cessa de souffrir et jouit tout à coup de ce divin moment de repos qui précède l'éternelle immobilité du corps. Ses yeux s'agrandirent et s'étonnèrent, sa bouche se desserra et sourit. Il y passa sa langue deux fois comme pour goûter encore, dans quelques coupes invisibles, une dernière goutte du baume de la vie. Et dit de cette voix rauque des mourants qui vient des entrailles et semble venir des pieds, au banquet de la vie infortunée convive. « Mais c'était Gilbert !» s'écria Stello en frappant des mains. « Ce n'était plus Gilbert !» poursuivit le docteur Noir en souriant d'un seul côté de la bouche. Car il ne put en dire davantage. Son menton tomba sur sa poitrine et ses deux mains broyèrent à la fois la croûte de pain et la plume du poète. Le bras droit me resta longtemps dans la main, et j'y cherchai le pouls inutilement. Je pris la plume et la posai sur sa bouche. Un léger souffle l'agita encore, comme si l'âme lui baissait en passant. Ensuite, rien ne bougea plus dans le duvet hérissé de la plume. Je présentai sous sa bouche le verre de ma tabatière qui ne fut pas terni par la moindre vapeur. Alors je fermai les yeux du mort et je pris mon chapeau. Chapitre 12. Une distraction. « Mais voilà une horrible fin !» dit Stello, relevant son front de l'oreiller qui le soutenait et regardant le docteur avec des yeux troublés. « Mais où donc étaient ses parents ?» Ils labouraient leurs champs, et j'en fus charmé. Près du lit de mes mourants, les malades m'ont toujours importuné. « Et pourquoi cela ?» dit Stello. « Mais quand une maladie devient un peu longue, les parents jouent le plus médiocre rôle qui se puisse voir. Pendant les 8 premiers jours, sentant la mort qui vient, ils pleurent et se tordent les bras. Les 8 jours suivants, ils s'habituent à la mort de l'homme, calculent ses suites et spéculent sur elles. Les 8 jours qui suivent, ils se disent à l'oreille « Oh, l'éveil nous tue. On prolonge ses souffrances, il serait plus heureux pour tout le monde que cela finit. Et s'il reste encore quelques jours après, on me regarde de travers. Ma foi, j'aime bien les gardes malades, elles tâtent bien à la dérober les draps du lit, mais elles ne parlent pas. « Oh, noir docteur !» soupira Stello, « d'une vérité toujours inexorable. Mais d'ailleurs, Gilbert avait maudit avec justice son père et sa mère, d'abord pour lui avoir donné naissance, ensuite pour lui avoir appris à lire. « Hélas, oui !» dit Stello. Il a écrit ceci. Malheur à ce dont je suis né, père aveugle et barbare, impitoyable mère. Pauvre, vous fallait-il mettre au jour un enfant qui n'hérita de vous qu'une affreuse indigence? Encore, si vous m'eussiez laissé mon ignorance, j'aurais vécu paisible en cultivant mon champ. Mais vous avez nourri les feux de mon génie. Ah, voilà des vers raisonnables, dit le docteur. Mauvaise rime, dit l'autre par habitude. Je veux dire qu'il avait raison de se plaindre de savoir lire. Parce que du jour où il sut lire, il fut poète. Et dès lors, il appartint à la race toujours maudite par les puissances de la terre. Quant à moi, comme j'avais l'honneur de vous le dire, je pris mon chapeau et j'allais sortir, lorsque je trouvai à la porte les propriétaires du grabat, qui gémissaient sur la perte d'une clé. Je savais où elle était. « Ah, quel mal vous me faites, impitoyable, et n'achevez pas, dit Stello, je sais cette histoire. » « Oh, comme il vous plaira, dit le docteur avec modestie. Je ne tiens pas aux descriptions chirurgicales, et ce n'est pas en elles que je puiserai les germes de votre guérison. Je vous dirai donc simplement que je rentrai chez ce pauvre petit Gilbert. Je l'ouvris, je pris la clé dans l'œsophage, et je la rendis au propriétaire. » Chapitre 13. Une idée pour une autre. Lorsque le désespérant docteur eut achevé son histoire, Stello demeura longtemps muet et abattu. Il savait, comme tout le monde, la fin douloureuse de Gilbert, mais comme tout le monde, il se trouva pénétré de cette sorte d'effroi que nous donne la présence d'un témoin qui raconte. Il voyait et touchait la main qui avait touché et les yeux qui avaient vu. Et plus le froid conteur était inaccessible aux émotions de son récit, plus Stello en était pénétré jusqu'à la moelle des os. Il éprouvait déjà l'influence de ce rude médecin des âmes, qui par ses raisonnements précis et ses insinuations préparatrices l'avait toujours conduit à des conclusions inévitables. Les idées de Stello bouillaient dans sa tête et s'agitaient en tous sens, mais elle ne pouvait réussir à sortir du cercle redoutable où le docteur Noir les avait enfermés comme un magicien. Il s'indignait à l'histoire d'un pareil talent et d'un pareil dédain, mais il hésitait à laisser déborder son indignation, se sentant comprimé d'avance par les arguments de fer de son ami. Des larmes gonflaient ses paupières et il les retenait en fronçant les sourcils. Une fraternelle pitié remplissait son cœur. En conséquence, il fit ce que trop souvent l'on fait dans le monde. Il n'en parla pas et exprima une idée toute différente. « Qui vous dit que j'ai pensé à une monarchie absolue et héréditaire, et que ce soit pour elle que j'ai médité quelques sacrifices ? D'ailleurs, pourquoi prendre cet exemple d'un homme oublié ? Combien, dans le même temps, n'eussiez-vous pas trouvé l'écrivain qui furent encouragés, comblés de faveurs, caressés et choyés. Oui, mais à la condition de vendre leurs pensées, reprit le docteur. Et je n'ai voulu vous parler de Gilbert que parce que cela m'a été une occasion pour vous dévoiler la pensée intime monarchique, touchant messieurs les poètes, et nous convenons bien d'entendre par poète tous les hommes de la muse ou des arts, comme vous le voudrez. J'ai pris cette pensée secrète sur le fait, comme je viens de vous le raconter, et je vous la transmets fidèlement. J'y ajouterai, si vous voulez bien, l'histoire de Kitty Bell, en cas que votre dévouement politique soit réservé à cette triple machine, assez connue sous le nom de monarchie représentative. Je fus témoin de cette anecdote en 1770, c'est-à-dire 10 ans précisément avant la fin de Gilbert. « Hélas, dit Stello, mais êtes-vous né sans entrailles ? N'êtes-vous pas saisi de l'affliction interminable en considérant que chaque année 10 000 hommes en France, appelés par l'éducation, quittent la table de leur père pour venir demander à une table supérieure un pain qu'on leur refuse ? Et à qui parlez-vous ? Je n'ai cessé de chercher toute ma vie un ouvrier assez habile pour faire une table ou une place pour tout le monde. Mais en cherchant, j'ai vu quelles miettes tombent dans la table monarchique. Vous les avez goûtées tout à l'heure. J'ai vu aussi celles de la table constitutionnelle, et je vous en veux parler. Ne croyez pas que ce que j'ai dessein de vous conter se trouve la plus légère apparence d'un drame, ni la moindre complication de personnages nouant leurs intérêts tout le long d'une petite ficelle entortillée que dénoue proprement le dernier chapitre ou le cinquième acte. Vous ne cessez d'en faire de cette sorte sans moi. Je vous dirai la simple histoire de ma naïve anglaise Kitty Bell. La voici telle qu'elle s'est passée sous mes yeux. Il tourna un instant dans ses doigts une grosse tabatière où étaient entrelacés en losange les cheveux de je ne sais qui, et commença ainsi. Chapitre 14. Histoire de Kitty Bell. Kitty Bell était une jeune femme comme il y en a tant en Angleterre, même dans le peuple. Elle avait le visage tendre, pâle et allongé, la taille élevée et mince, avec de grands pieds, et quelque chose d'un peu maladroit et décontenancé, que je trouvais plein de charme. À son aspect élégant et noble, à son nez aquilin, à ses grands yeux bleus, vous l'eussiez prise pour une des belles maîtresses de Louis XIV, dont vous aimez tant les portraits sur émail, plutôt que pour ce qu'elle était, c'est-à-dire une marchande de gâteaux. Sa petite boutique était située près du Parlement, et quelquefois, en sortant, les membres des deux chambres descendaient le cheval à sa porte et venaient manger des brins et des pince-pies en continuant la discussion sur le bill. C'était devenu une sorte d'habitude par laquelle la boutique s'agrandissait chaque année et prospérait sous la garde des deux petits-enfants de Kitty. Ils avaient 8 ans et 10 ans, le visage frais et rose, les cheveux blonds, les épaules toutes nues, et un grand tablier blanc devant eux et sur le dos, tombant comme une chasuble. Le mari de Kitty, Master Bell, était un des meilleurs selliers de Londres. Et si zélé pour son état, pour la confection et le perfectionnement de ses brides et de ses étriers, qu'il ne mettait presque jamais le pied à la boutique de sa jolie femme dans la journée. Elle était sérieuse et sage, il le savait, il y comptait, et je crus en vérité qu'il n'était pas trompé. En voyant Kitty, vous eussiez dit la statue de la paix. L'ordre et le repos respiraient en elle, et tous ses gestes en étaient la preuve irrécusable. Elle s'appuyait à son comptoir et penchait sa tête, dans une attitude douce, en regardant ses beaux enfants. Elle croisait les bras, attendait les passants avec la plus angélique patience, et les recevait ensuite en se levant avec respect, répondait juste et seulement le mot qu'il fallait, faisait signe à ses garçons, ployait modestement la monnaie dans du papier pour la rendre, et c'était là toute sa journée, pas peu de choses près. J'avais toujours été frappé de la beauté et de la longueur de ses cheveux blonds, d'autant plus qu'en 1770, les femmes anglaises ne mettaient plus sur leur tête qu'un léger nuage de poudre, et qu'en 1770, j'étais assez disposé à admirer les beaux cheveux attachés en larges chignons derrière le cou et détachés en longs repentirs devant le cou. J'avais d'ailleurs une foule de comparaisons agréables au service de cette belle et chaste personne. Je parlais assez ridiculement l'anglais, comme nous faisons d'habitude, et je m'installais devant le comptoir, mangeant ses petits gâteaux et la comparant. Puis je la comparais à Pamela, ensuite à Clarisse, un instant après Ophélia, quelques heures plus tard à Miranda. Elle me faisait verser du soda water et me souriait avec un air de douceur et de prévenance, comme s'attendant toujours à quelque saillie extrêmement gaie de la part du français. Elle riait même quand j'avais ri. Cela durait une heure ou deux, après quoi elle me disait qu'elle me demandait bien pardon, mais ne comprenait pas l'allemand. N'importe où j'y revenais, sa figure me reposait à voir. Je lui parlais toujours avec la même confiance et elle m'écoutait avec la même résignation. D'ailleurs, ses enfants m'aimaient pour ma canne à la Tronchin, qu'ils sculptaient à coups de couteau. Un beau jonc, pourtant. Il m'arriva, quelquefois, de rester dans un coin de sa boutique à lire le journal, entièrement oublié d'elle et des acheteurs, causeurs, disputeurs, mangeurs et buveurs qui s'y trouvaient. C'était alors que j'exerçais mon métier chéri d'observateur. Voici une des choses que j'observais. Tous les jours, à l'heure où le brouillard était assez épais pour cacher cette espèce de lanterne sourde que les Anglais prennent pour le soleil et qui n'est que la caricature d'une autre, comme le nôtre est la parodie du soleil d'Égypte, à cette heure, qui est souvent 2 heures après midi, enfin, dès que venait l'entre-chien et loup, entre le jour et les flambeaux, il y avait une ombre qui passait une fois sur le trottoir devant les vitres de la boutique. Kitty Bell se levait sur le champ de son comptoir, l'aîné de ses enfants ouvrait la porte, elle lui donnait quelque chose qu'il courait porter dehors, l'ombre disparaissait et la mère rentrait chez elle. « Ah, Kitty, Kitty !» dis-je en moi-même. Cette ombre est celle d'un jeune homme, d'un adolescent imberbe. Mais qu'avez-vous fait, Kitty Belle? Mais que faites-vous, Kitty Belle? Et Kitty Belle, que ferez-vous? Cette ombre est élancée, laisse dans sa démarche. Elle est enveloppée d'un manteau noir qui ne peut réussir à la rendre grossière dans sa forme. Cette ombre porte un chapeau triangulaire dont un des côtés est abattu sur les yeux. Mais on voit deux flammes sous ce large bord, deux flammes comme Prométhée les dut puiser au soleil. Je sortis en soupirant la première fois que je vis ce petit manège, parce que cela me gâtait l'idée de ma paisible et vertueuse Kitty. Et puis vous savez que jamais un homme ne voit ou ne croit voir le bonheur d'un autre homme auprès d'une femme sans le trouver haïssable, n'eût-il nulle prétention pour lui-même. La seconde fois, je sortis en souriant. Je m'applaudissais de ma finesse pour avoir deviné cela, tandis que tous les gros lords et les longues ladies sortaient sans avoir rien découvert. La troisième fois, je m'y intéressais, et je me sentis un tel désir de recevoir la confidence de ce joli petit secret que je crois que je serais devenu complice de tous les crimes de la famille d'Agamemnon si Kitty Bell m'eût dit « Oui, monsieur, c'est cela même. » Mais non, Kitty Bell ne me disait rien. Toujours paisible, toujours placide comme au sortir du prêche, elle ne daignait pas même me regarder avec embarras, comme pour me dire « Je suis sûr que vous êtes un homme trop bien élevé et trop délicat pour en rien dire. Je voudrais bien que vous n'eussiez rien vu. Il est bien mal à vous de rester si tard chaque jour. Non, ne me regardez pas non plus d'un air de mauvaise humeur et d'autorité, comme pour me dire « Lisez toujours, ceci ne vous regarde pas. » Oh, une Française impatiente n'y eût pas manqué, comme bien vous le savez. Mais elle avait trop d'orgueil, ou de confiance en elle-même, ou de mépris pour moi. Elle se remettait à son comptoir avec un sourire aussi pur, aussi calme et aussi religieux que si rien ne se fût passé. Je fis des vains efforts pour attirer son attention. J'avais beau me pincer les lèvres, aiguiser mes regards malins, tousser avec importance et gravité comme un abbé qui réfléchit sur la confession d'une fille de 18 ans ou un juge qui vient d'interroger un faux monnayeur. Mais j'avais beau ricaner dans mes dents en marchant vite et en me frottant les mains, comme un fin matois qui se rappelle ses petites fredaines et se réjouit de voir certains petits tours où il est expert, j'avais beau m'arrêter et tout à coup devant elle, lever les yeux au ciel et laisser tomber mes bras avec abattement, comme un homme qui voit une jeune femme se noyer de gaieté de cœur et se précipiter dans l'eau du haut du pont, j'avais beau jeter mon journal tout à coup et le chiffonner comme un mouchoir de poche, ainsi que pourrait faire un philanthrope désespéré, renonçant à conduire les hommes au bonheur par la vertu. J'avais beau passer devant elle d'un air de grandeur, marchant sur les talons et baissant les yeux dignement, comme un monarque offensé de la conduite trop leste, contenu en sa présence un page et une fille d'honneur. J'avais beau courir à la porte vitrée, un instant après la disparition de l'ombre, et m'arrêter là, comme un voyageur parisien au bord d'un torrent, arrangeant ses cheveux rares de manière qu'ils aient l'air dérangés par les zéphyrs, et parlant du vague des passions, tandis qu'il ne pense qu'au positif des intérêts. J'avais beau prendre bon parti tout à coup et marcher vers elle, comme un poltron qui fait le brave et qui se lance sur son adversaire, jusqu'à ce qu'étant à portée, il s'arrête, manquant à la fois de pensée, de parole et d'action. Toutes mes disgrâces, grimaces de réflexion, de pénétration, de confusion, de contrition, de componction, de renonciation, d'abnégation, de méditation, de désolation, de consomption, de résolution, de domination et d'explication, toute ma pantomime enfin vint échouer devant ce doux visage de marbre, dont l'inaltérable sourire et le regard candide et bienfaisant ne me permirent pas de dire une seule parole intelligible. J'y serais encore, car j'avais résolu de n'en pas avoir le démenti, et je fus toujours persévérant en diable. Oui, monsieur, j'y serais encore, j'en jure parce que vous voudrez, j'en jure sur votre panthéon, deux fois décanonisé par les canons, et d'où Sainte-Geneviève est allée coucher deux fois dans la rue. Ô galant Attila, qu'en dis-tu? Je jure que j'y serais encore, s'il fût arrivé une aventure qui m'éclaira sur l'ombre amoureuse, comme elle vous éclairera vous-même, je le désire, sur l'ombre politique que vous poursuivez depuis une heure. Chapitre 15. Une lettre anglaise. Jamais la vénérable ville de Londres n'avait étalé avec tant de grâce les charmes de ses vapeurs naturelles et artificielles, et n'avait répandu avec autant de générosité les nuages grisâtres et jaunâtres de son brouillard, mêlés aux nuages noirâtres de son charbon de terre. Jamais le soleil n'avait été aussi mat et aussi plat que le jour où je me trouvais plus tôt que de coutume à la petite boutique de Kitty. Ses deux beaux enfants étaient debout devant la porte de cuivre de la maison. Ils ne jouaient pas, mais se promenaient gravement, les mains derrière le dos, imitant leur père avec un air sérieux et charmant à voir, placé comme il était sur des joues fraîches, sentant encore le lait bien rose et bien pur, et sortant du berceau. En entrant, je m'amusai un instant à les regarder faire, et puis je portais la vue sur leur mère. Ma foi, je reculais. Oui, c'était la même figure, les mêmes traits réguliers et calmes. Mais ce n'était plus Kitty Bell. C'était sa statue très ressemblante. Oui, jamais statue de marbre ne fut aussi décolorée. J'atteste qu'il n'y avait pas sous la peau blanche de sa figure une seule goutte de sang. Ses lèvres étaient presque aussi pâles que le reste, et le feu de la vie ne brûlait que le bord de ses grands yeux. Deux lampes l'éclairaient et disputaient le droit de colorer la chambre à la lueur brumeuse et mourante du jour. Ces lampes, placées à droite et à gauche de sa tête penchée, lui donnaient quelque chose de funéraire dont je fus frappé. Je m'assis en silence devant le comptoir. Elle sourit. Oui, quelle que soit l'opinion que vous ait donnée sur mon compte, l'inflexibilité de mes raisonnements et la dure analyse de mes observations, Je vous assure que je suis très bon. Seulement, je ne le dis pas. En 1770, je le laissais voir. Cela m'a fait tort et je m'en suis corrigé. Je m'approchai donc du comptoir et je lui pris la main en ami. Elle serra la mienne d'une façon très cordiale et je sentis un papier doux et froissé qui roulait entre nos deux mains. C'était une lettre qu'elle me montra tout à coup en étendant le bras d'un air désespéré, comme si elle m'eût montré un de ses enfants morts à ses pieds. Elle me demanda en anglais si je saurais la lire. « Oh, j'entends l'anglais avec les yeux, » lui dis-je en prenant sa lettre du bout du doigt, n'osant pas la tirer à moi et y porter la vue sans sa permission. Elle comprit mon hésitation et m'en remercia par un sourire plein d'une inexprimable bonté et d'une tristesse mortelle qui voulait dire « Lisez, mon ami, je vous le permets, et cela m'importe peu. » Les médecins jouent à présent dans la société le rôle des prêtres dans le Moyen-Âge. Ils reçoivent les confidences des ménages troublés, des parentés bouleversées par les fautes et les passions de famille. L'abbé a cédé la ruelle au docteur, comme si cette société, en devenant matérialiste, avait jugé que la cure de l'âme devait dépendre désormais de celle du corps. Comme j'avais guéri les gencives et les ongles des deux enfants, j'avais un droit incontestable à connaître les peines secrètes de leur mère. Cette certitude me donna confiance et je lus la lettre que voici. Je l'ai prise sur moi comme un des meilleurs remèdes que je puisse apporter à vos dispositions douloureuses. « Écoutez !» Le docteur tira lentement de son portefeuille une lettre excessivement jaune dont les angles et les plis s'ouvraient comme ceux d'une vieille carte géographique et lut ce qui suit avec l'air d'un homme déterminé à ne pas faire grâce aux malades d'une seule parole. « My dear madame, I will only confide to you « Oh, ciel !» s'écria Stello. « Oh, vous avez un accent français d'une pesanteur insupportable. Traduisez cette lettre, docteur, dans la langue de nos pères. Et tâchez que je ne sente pas trop les angoisses, les bégaiements et les anicroches des traducteurs, qui font que l'on croit marcher avec eux dans la terre labourée à la poursuite d'un lièvre, en portant sur ses guêtres 10 livres de boue. » « Je ferai de mon mieux pour que l'émotion ne se perde pas en route, » dit le docteur noir, « plus noir que jamais. Et si vous sentez l'émotion en trop grand péril, vous crierez, ou vous sonnerez, ou vous frapperez du pied pour m'avertir. » Il poursuivit ainsi. « Ma chère madame, à vous seule je me confierai, à vous, madame, à vous, Kitty, à vous, beauté paisible et silencieuse, qui seule avait fait descendre sur moi le regard ineffable de la pitié. J'ai résolu d'abandonner pour toujours votre maison, et j'ai un moyen sûr de m'acquitter envers vous. Mais je veux déposer en vous le secret de mes misères, de ma tristesse, de mon silence et de mon absence obstinée. Je suis un autre trop sombre pour vous. Il est temps que cela finisse. Écoutez bien ceci. J'ai 18 ans aujourd'hui. Si l'âme ne se développe comme je le crois et ne peut étendre ses ailes qu'après que nos yeux ont vu pendant 14 ans la lumière du soleil, si, comme je l'ai éprouvé, la mémoire ne commence qu'après 14 années à ouvrir ses tables et à en suivre les registres toujours incomplets, je puis dire que mon âme n'a que 4 ans encore depuis qu'elle se connaît, depuis qu'elle agite au dehors, depuis qu'elle a pris son vol. Dès le jour où elle a commencé de fendre l'air du front et de l'aile, elle ne s'est pas posée à terre une fois. Si elle s'y abat, ce sera pour y mourir, je le sais. Jamais le sommeil des nuits n'a été une interruption au mouvement de ma pensée. Seulement, je la sentais flotter et s'égarer dans le tâtonnement aveugle du rêve. Mais toujours les ailes déployées, toujours le cou tendu, toujours l'œil ouvert dans les ténèbres, toujours élancé vers le but où l'entraînait un mystérieux désir. Aujourd'hui, la fatigue accable mon âme. Elle est semblable à celle dont il est dit dans le Livre Saint. Les âmes blessées pousseront leurs cris vers le ciel. Mais pourquoi ai-je été créé tel que je suis? J'ai fait ce que j'ai dû faire, et les hommes m'ont repoussé comme un ennemi. Si dans la foule il n'y a pas place pour moi, je m'en irai. Voici maintenant ce que j'ai à vous dire. On trouvera dans ma chambre, au chevet de mon lit, des papiers et des parchemins confusément entassés. Ils ont l'air vieux et ils sont jeunes. La poussière qui les couvre est factice. C'est moi qui suis le poète de ces poèmes. Le moine Rowley, c'est moi. J'ai soufflé sur sa cendre. J'ai reconstruit son squelette. Je l'ai revêtu de chair. Je l'ai ranimé. Je lui ai passé sa robe de prêtre. Il a joint les mains et il a chanté. Il a chanté comme Ossian. Il a chanté la bataille d'Hastings, la tragédie d'Ella, la ballade de charité avec laquelle vous endormiez vos enfants, celle de Sir William Caninge qui vous attend plus, la tragédie de Godwin, le tournoi les vieilles églogues du temps de Henri II. Ce qu'il m'a fallu de travaux durant 4 ans pour arriver à parler ce langage du XVe siècle, dont le moine Rowley était supposé se servir pour traduire le moine Turgot et ses poèmes composés au Xe siècle, eût rempli les 80 années de ce moine imaginaire. J'ai fait de ma chambre la cellule d'un cloître. J'ai béni et sanctifié ma vie et ma pensée. J'ai raccourci ma vue et j'ai éteint devant mes yeux les lumières de notre âge. J'ai fait mon cœur plus simple et l'ai baigné dans le bénitier de la foi catholique. Je me suis appris le parler enfantin du vieux temps. J'ai écrit comme le roi Harold au duc Guillaume en demi-saxon et demi-franc. Et ensuite j'ai placé ma muse religieuse dans sa châsse comme une sainte. Parmi ceux qui l'ont vue, quelques-uns ont prié devant elle et ont passé outre. Beaucoup d'autres ont ri. Un grand nombre m'a injurié. Tous m'ont foulé aux pieds. J'espérais que l'illusion de ce nom supposé ne serait qu'un voile pour moi. Je sens qu'elle m'est un linceul. Ô ma belle amie, sage et douce hospitalière qui m'avait recueilli, croirez-vous que je n'ai pu réussir à renverser le fantôme de Rowley que j'avais créé de mes mains? Cette statue de pierre est tombée sur moi et m'a tué. Et savez-vous comment? Ô douce et simple Kitty Bell, savez-vous qu'il existe une race d'hommes au cœur sec et à l'œil microscopique, armés de pinces et de griffes? Cette fourmilière se presse, se roule, se rue sur le moindre de tous les livres, le ronge, le perce, le lacère, le traverse plus vite et plus profondément que le ver ennemi des bibliothèques. Nulle émotion n'entraîne cette impérissable famille. Nulle inspiration ne l'enlève, nulle clarté ne la réjouit ni ne l'échauffe. Cette race indestructible et destructive, dont le sang est froid comme celui de la vipère et du crapaud, voit clairement les 3 tâches du soleil et n'a jamais remarqué ses rayons. Elle va droit à tous les défauts. Elle pullule sans fin dans les blessures même qu'elle a faites, dans le sang et les larmes qu'elle a fait couler. Toujours mordante et jamais mordue, elle est à l'abri des coups par sa ténuité, son abaissement, ses détours subtils et ses sinuosités perfides. Ce qu'elle attaque se sent blessé au cœur comme par les insectes verts et innombrables que la peste d'Asie fait pleuvoir sur son chemin. ce que la blessée se dessèche, se dissout intérieurement, et sitôt que l'air le frappe, tombe au premier souffle ou au moindre toucher. Épouvanté de voir comment quelques esprits élevés se passaient de main en main les parchemins que j'avais épassés les nuits à inventer, comment le moine Rowley paraissait aussi grand qu'Homère, à Lord Chatham, à Lord North, à Lord William Draper, au juge Blackstone, à quelques autres hommes célèbres, ils se sont hâtés de croire à la réalité de mon poète imaginaire. J'ai pensé d'abord qu'il me serait facile de me faire reconnaître. J'ai fait des antiquités à Arnamatin, plus antiques encore que les premières. On les a reniées sans me rendre hommage des autres. D'ailleurs, tout à la fois a été dédaigné. Mort et vivant, le poète a été repoussé par les têtes solides dont un signe ou un mot décide des destinées de la Grande-Bretagne. Le reste n'a pas osé lire. Cela reviendra quand je ne serai plus. Ce moment-là ne peut tarder beaucoup. J'ai fini ma tâche. Othello's occupation's gone. Ils ont dit qu'il y avait en moi la patience et l'imagination. Ils ont cru que ces deux flambeaux, on pouvait souffler l'un et conserver l'autre. « Yainavnun kuls merci singil » dis-je avec Rowley. « Que Dieu leur permette leur péché. Ils allaient tout éteindre la foi. » J'essayais de leur obéir parce que je n'avais plus de pain et qu'il en fallait envoyer à Bristol pour ma mère qui est très vieille et qui va mourir après moi. J'ai tenté leurs travaux exacts, et je n'ai pu les accomplir. J'étais semblable à un homme qui passe du grand jour à une caverne obscure. Chaque pas que je faisais était trop grand, et je tombais. Ils en ont conclu que je ne savais pas marcher. Ils m'ont déclaré incapable de choses utiles. J'ai dit « Vous avez raison », et je me suis retiré. Aujourd'hui que me voici hors de chez moi, je devrais dire de chez vous, plutôt que de coutume. J'avais projeté d'attendre M. Beckford, que l'on dit bienfaisant et qui m'a fait annoncer sa visite. Mais je n'ai pas le courage de voir en face un protecteur. Si ce courage me revient, je rentrerai chez moi. Tout le matin, j'ai rôdé sur le bord de la Tamise. Nous voici en novembre, au temps des grands brouillards. Celui d'aujourd'hui s'étend devant les fenêtres comme un drap blanc. J'ai passé 10 fois devant votre porte. Je vous ai regardé sans être aperçu de vous. Et j'ai demeuré le front appuyé sur les vitres comme un mendiant. J'ai senti le froid tomber sur moi et couler sur mes membres. J'ai espéré que la mort me prendrait ainsi, comme elle a pris d'autres pauvres sous mes yeux. Mais mon corps faible est doué pourtant d'une insurmontable vitalité. Je vous ai bien considéré pour la dernière fois, et sans vouloir vous parler, de crainte de voir une larme dans vos beaux yeux, j'ai cette faiblesse encore de penser que je reculerais devant ma résolution si je vous voyais pleurer. Je vous laisse tous mes livres, tous mes parchemins et tous mes papiers. Et je vous demande en échange le pain de ma mère. Vous n'aurez pas longtemps à le lui envoyer. Voici la première page qu'il me soit arrivé d'écrire avec tranquillité. On ne sait pas assez quelle paix intérieure est donnée à celui qui a résolu de se reposer pour toujours. On dirait que l'éternité se fait sentir d'avance et qu'elle est pareille à ces belles contrées de l'Orient dont on respire l'air embaumé longtemps avant d'en avoir touché le sol. Thomas Chatterton. Chapitre 16, où le drame est interrompu par l'érudition d'une manière déplorable aux yeux de quelques dignes lecteurs. Lorsque j'eus achevé de lire cette longue lettre, qui me fatigua beaucoup la vue et l'entendement, à cause de la finesse de l'écriture et de la quantité de muets et d'y grecs que Chatterton y avait entassés, par habitude d'écrire le vieil anglais, je la rendis à la sérieuse Kitty. Elle était restée appuyée sur son comptoir, son cou long et flexible s'étalait sur l'épaule, sa tête rêveuse et ses deux coudes appuyés sur le marbre blanc s'y réfléchissaient ainsi que tout son buste charmant. Elle ressemblait à une petite gravure de Sophie Western, la patiente maîtresse de Tom James, gravure que j'ai vue autrefois à Douvres chez... « Oh, vous allez encore la comparer !» interrompit Stello. « Mais qu'ai-je besoin que vous me fassiez un portrait en miniature de tout mon personnage ?»« Il est ce qu'il suffit, croyez-moi, c'est qu'on a un peu d'imagination. »« Un seul trait, docteur, quand il est juste, me vaut mieux que tant de détails. »« Si je vous laisse faire, vous me direz de quelle manufacture était la soie qui servit à nouer la rosette de ses souliers. » Pernicieuse habitude de narration qui gagne d'une manière effrayante. Là, là, s'écria le docteur Noir, avec autant d'indignation qu'il put forcer son visage impassible à en indiquer. Sitôt que je veux devenir sensible, vous m'arrêtez tout court. Ma foi, vogue la galère, vive Démocrite. Habituellement, j'aime mieux qu'on ne rit ni ne pleure et qu'on voie froidement la vie comme un jeu d'échecs. Mais s'il faut choisir d'Héraclite ou de Démocrite pour parler aux hommes d'eux-mêmes, j'aime mieux le dernier comme plus dédaigneux. C'est vraiment par trop estimer la vie que la pleurer. Les larmoyeurs et les haïsseurs le prennent trop à cœur. C'est ce que vous faites, dont bien me fâche. L'espèce humaine, qui est incapable de rien faire de bien ou de mal, devrait moins vous agiter par son spectacle monotone. Permettez donc que je poursuive à ma manière. Oh, vous me poursuivez, en effet, soupira Stello d'un ton de victime. L'autre poursuivit fort à son aise. Kitty Bell reprit la lettre, tourna languissamment sa tête vers la rue, la secoua deux fois et me dit « He's gone !»« Assez, assez, la pauvre petite !» s'écria Stello. « Oh, assez, n'ajoutez rien à cela. Je la vois tout entière dans ce seul mot. Il est parti. »« Ah, silencieuse anglaise, c'est bien tout ce que vous avez dû dire. »« Oui, je vous entends. » Vous lui aviez donné asile, vous ne lui faisiez jamais sentir qu'il était chez vous, vous disiez respectueusement ses vers et vous ne vous permettiez jamais un compliment audacieux. Vous ne lui laissiez voir qu'ils étaient beaux à vos yeux que par votre soin les apprendre à vos enfants avec leurs prières du soir. Peut-être hasardiez-vous un timide trait de crayon en marge des adieux de Bertha à son ami. Une croix presque imperceptible et facile à effacer, au-dessus du verre qui renferme la tombe du roi Harold. Et si une de vos larmes a enlevé une lettre du précieux manuscrit, vous avez cru sincèrement y avoir fait une tâche, et vous avez cherché à la faire disparaître. Et il est parti, pauvre Kitty. Lingloire is gone. Bien, très bien, dit le docteur. « Oh, il n'y a qu'à vous lâcher la bride, vous n'épargnez bien des paroles vaines, et vous devinez très juste. »« Mais qu'avais-je besoin de vous donner d'aussi inutiles détails sur Chatterton ? Vous connaissez aussi bien que moi ses ouvrages. »« C'est assez ma coutume, reprit Stello nonchalamment, de me laisser instruire avec résignation sur les choses que je sais le mieux, afin de voir si on les sait de la même manière que moi. » Car il y a diverses manières de savoir les choses. Vous avez raison, dit le docteur. Et si vous faisiez plus de cas de cette idée, au lieu de la laisser s'évaporer comme au dehors d'un flacon débouché, vous diriez que c'est un spectacle curieux, que de voir et mesurer le peu de chaque connaissance que contient chaque cerveau. L'un renferme d'une science le pied seulement et n'en a jamais aperçu le corps. L'autre cerveau contient d'elle une main tronquée. Un troisième la garde, l'adore, la tourne, la retourne en lui-même, la montre et la démontre quelquefois dans l'état précisément du fameux torse, sans la tête, les bras et les jambes. De sorte que, tout admirable qu'elle est, sa pauvre science n'a ni but, ni action, ni progrès. Les plus nombreux sont ceux qui n'en conservent que la peau, la surface de la peau, la plus mince pellicule imaginable, et passent pour avoir le tout en eux bien complet. Ce sont là les plus fiers. Mais quant à ceux qui, de chaque chose dont ils parleraient, posséderaient le tout, intérieur et extérieur, corps et âme, ensemble et détail, ayant tout cela également présent à la pensée pour en faire usage sur le champ, comme un ouvrier de tous ses outils, lorsque vous les rencontrerez, vous me ferez plaisir de me donner leur carte de visite, afin que je passe chez eux leur rendre mes devoirs très humbles. Oui, depuis que je voyage, étudiant les sommités intellectuelles de tous les pays, je n'ai pas trouvé l'espèce que je viens de vous décrire. Moi-même, monsieur, je vous avoue que je suis fort éloigné de savoir si complètement ce que je dis, mais je sais toujours plus complètement que ceux à qui je parle me comprennent et même m'écoutent. Et remarquez, s'il vous plaît, que la pauvre humanité a cela d'excellent, que la médiocrité des masses exige fort peu des médiocrités d'un ordre supérieur, par lesquelles elle se laisse complaisamment et fort plaisamment instruire. Ainsi, monsieur, nous raisonnions sur Chatterton. Je vais vous faire avec une grande assurance une dissertation scientifique sur le vieil anglais, sur son mélange de saxons et de normands, sur ses emuets, ses y, et la richesse de ses rimements ei et en yange. J'allais pousser les gémissements pleins de gravité, d'importance et de méthode sur la partie réparable des vieux mots si naïfs et si expressifs de unburdened au lieu de harmed, de deslavati pour unsuccessfulness, de accrual pour faintly, et des mots harmonieux de minbrush pour thinness, of mind, mystique pour mystique, starven pour dead. Certainement, en traduisant si facilement l'anglais de 1449 en anglais de 1832, il n'y a pas une chair de bois de sapin tachée d'encre que je me fusse montré très imposant à vos yeux. Dans ce fauteuil même, malgré sa propreté, j'aurais pu encore vous jeter dans un de ces agréables étonnements qui font que l'on se dit « C'est un puits de science !» Lorsque je me suis aperçu fort à propos que vous connaissiez votre Chatterton, ce qui n'arrive pas souvent à Londres, ville où l'on voit pourtant beaucoup d'anglais, me disait un voyageur très considéré à Paris. Me voici donc retombé dans l'état fâcheux d'un homme forcé de causer au lieu de prêcher, et par-ci par-là d'écouter. Écouter, oh, la triste et inusitée condition pour un docteur. Stello sourit pour la première fois depuis bien longtemps. « Je ne suis pas fatigant, écoutez, » dit-il lentement. « Je suis trop vite fatigué de parler. »« Fâcheuse disposition, » interrompit l'autre, « en la bonne ville de Paris, où celui-là est déclaré éloquent, qui, le dos à la cheminée ou les mains sur la tribune, dévide pour une heure et demie des syllabes sonores, à la condition toutefois qu'elle ne signifie rien qui n'ait été lu ou entendu quelque part. » « Oui, » continua Stello, les yeux attachés au plafond, comme un homme qui se souvient, et dont le souvenir devient plus clair et plus pur de moment en moment. « Oui, je me sens ému à la mémoire de ces œuvres naïves et puissantes que créa le génie primitif et méconnu de Chatterton, mort à 18 ans. Cela ne devrait faire qu'un nom, comme Charlemagne, tant cela est beau, étrange, unique et grand. Ô triste, ô douloureux, ô profond et noir docteur, si vous pouvez vous émouvoir, ne sera-ce pas en vous rappelant le début simple et antique de la bataille d'Hastings, avoir ainsi dépouillé l'homme moderne, s'être fait par sa propre puissance moine du XVIIIe siècle, un moine bien pieux et bien sauvage, un vieux Saxon révolté contre son joug normand, qui ne connaît que deux puissances au monde, le Christ et la mer. À elle, il adresse son poème et s'écrie « Ô Christ, quelle douleur pour moi que de dire combien de nobles comtes et de valeureux chevaliers sont bravement tombés en combattant pour le roi Harold dans la plaine d'Hastings. Ô mère féconde et bienfaisante, comment, avec ton intelligence puissante, n'as-tu pas soulevé le flux de tes eaux contre les chevaliers du duc William ? Oh, que ce duc Guillaume leur a fait d'impression ! Interrompit le docteur. Sa Valérie est un joli petit port de mer, sale et embourbé. J'y ai vu de jolis bocages verdoyants, dignes des bergers du Lignon. J'ai vu de petites maisons blanches, mais pas une pierre où il soit écrit « Guillaume est parti d'ici pour Hastings. » « De ce duc William, » continua Stello en déclamant pompeusement, « dont les lâches flèches ont tué tant de comtes et arrosé les champs d'une large pluie de sang. »« C'est un peu bien homérique, » grommela le docteur. « Autrement, the sons of many chiefs and Tibble slain. » Et que ce jeune Harold est donc beau dans sa force et sa rudesse, continuait l'enthousiasme de Stello. Kingy Harold est in her majestic raid, etc. Guillaume le voit et s'avance en chantant l'air de Roland. Très exact, très historique, murmurait sourdement la science du docteur. Car Mansbury dit positivement que Guillaume commença l'engagement par le chant de Roland. « Tum cantilena lolandi in coata, ut martium viri exemplum pugnatores accenderet. » Et Wharton, dans ses dissertations, dit que les uns chargèrent en criant « Iou, iou !» C'était l'usage barbare. Et maître Robert de Wes, donc, que l'on a nommé Gaes, Gape, Eustache et Wistes, ne dit-il pas de Taillefer le Normand? Taillefer, qui moult bien chantoué, sort un cheval qui tôt allait, devant le duc allé chantant de Carlemagne et de Roland, et d'Olivier et des vassals qui moururent en Runceval. Et les deux races se mesurent, disait Stello avec ardeur, en même temps que le docteur récitait avec lenteur et satisfaction, ces citations. La flèche normande heurte la côte de maille saxonne. C'est le sire de Châtillon qui attaque le Earl Adelme. Le sire de Torcy tue Hengist. La France inonde la vieille île saxonne. La face de l'île est renouvelée, sa langue changée. Il ne reste que dans quelques vieux couvents quelques vieux moines comme Turgot, et depuis Rowley pour gémir et prier auprès des statues de pierre des saints rois saxons qui portent chacun une petite église dans leurs mains. Et quelle érudition ! S'écria le docteur. Il a fallu joindre les lectures françaises aux traditions saxonnes. Que d'historiens depuis Hugh de Longueville jusqu'au sire de Saint-Valéry ! Le vidame de Patay, le seigneur de Picquigny, Guillaume des Moulins, que Stowe appelle Moulinus, et le prétendu Rowley du Moulines, et le bon sire de Sansot, et le vaillant sénéchal de Torcy, et le sire de Tancarville, et tous nos vieux faiseurs de chroniques et d'histoires, mal rimés, baladés et versiculés. Mais c'est le bon divanoé. Ah, soupirait Stello. qu'il est rare qu'une si simple et si magnifique création que celle de la bataille d'Hastings vienne du même poète anglais que ces chants élégiaques qui la suivent. Quel poète anglais écrivit rien de semblable à cette bataille de charité si naïvement intitulée « An excellent ballad of charity » comme l'honnête Francisco de la Fardelle imprimait le famosa comédia de Lope de Fega, Carpio. Rien de naïf comme le dialogue de l'abbé de Saint-Goldwyn et de son pauvre. Que le début est simple et beau. Que j'ai toujours aimé cette tempête qui saisit la mer dans son calme. Quelle couleur nette et juste, quel large tableau, tel que depuis l'Angleterre n'en a pas eu de meilleur en ses poétiques galeries. Voyez, c'était le mois de la Vierge. Le soleil était rayonnant au milieu du jour, l'air calme et mort, le ciel tout bleu. Et voilà qu'il se leva sur la mer un amas de nuages d'une couleur noire qui s'avancèrent dans un ordre effrayant et se roulèrent au-dessus des bois en cachant le front éclatant du soleil. La noire tempête s'enflait et s'étendait à tire-d'aile. Et n'aimez-vous pas, qui ne l'aimerait, à remplir vos oreilles de cette sauvage harmonie des vieux vers? The sun was gleaming in the middle of day. Et ici, huit vers de vieil anglais, sans traduction. Le docteur n'écoutait pas. « Oh, je soupçonne fort, dit-il, cet abbé de Saint-Goldwyn, de n'être autre chose que Sir Ralph de Belmont, grand partisan de Lancaster, et il est visible que Rowley yorkiste. Oh, damné commentateur, vous m'éveillez !» s'écria Stello, sorti des délices de son rêve poétique. « Mais c'était bien mon intention, dit le docteur noir, afin qu'il me fût permis de passer du livre à l'homme et de quitter la nomenclature de ses ouvrages pour celle de ses événements, qui furent très peu compliqués, mais qui valent la peine que j'en achève le récit. « Récitez donc, » dit Stello avec humeur. Et il se ferma les yeux avec les deux mains, comme ayant pris la ferme résolution de penser à autre chose. Résolution qu'il ne put mettre à exécution, comme on le pourra voir si l'on se condamne à lire le chapitre suivant.